Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le président Donald Trump est depuis mercredi soir le troisième chef de l'exécutif américain à être mis officiellement en accusation. La Chambre des représentants du Congrès a approuvé deux chefs d'accusation à son encontre pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il s'agit d'une mesure historique qui va donner lieu à un procès en destitution au Sénat américain et alimenter les tensions partisanes dans un pays profondément divisé. Jean-Roger Bion.
La Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, a voté en séance plénière à 230 voix pour et 197 contre la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir. Elle a ensuite voté à 229 voix pour et 198 contre la mise en accusation du président républicain pour entrave au Congrès dans l'affaire ukrainienne. Un procès devrait être organisé en janvier au Sénat, contrôlé par les républicains, qui continuent de défendre Donald Trump et pourront faire obstacle à la procédure. Le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, avait déclaré avant le vote à la Chambre qu'il n'y avait, selon lui, aucune chance que le Sénat destitue Trump. Les démocrates accusent Donald Trump d'avoir cherché à faire pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, afin que Kiev ouvre une enquête sur les activités en Ukraine du fils de Joe Biden et sur Joe Biden lui-même, le potentiel adversaire démocrate de Donald Trump lors de la présidentielle de 2020. Il lui reproche aussi d'avoir entravé leur enquête en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers, mais aussi via des tentatives vaines d'empêcher d'autres dépositions et d'intimider des témoins.
C'était bien sûr Anne Albertson. Afrique maintenant, en Algérie, le nouveau président Abdelmadjid Tebboune a été investi à la tête de l'État ce jeudi lors d'une cérémonie officielle à Alger. Vainqueur du premier tour de la présidentielle le 12 décembre, M. Tebboune succède à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, dont il fut le premier ministre et qui a été contraint à la démission en avril par un mouvement populaire de contestation du régime au pouvoir en Algérie depuis l'indépendance en 1962. Dès l'annonce de sa victoire, Abdelmadjid Tebboune a dit tendre la main au mouvement de contestation en l'invitant à un dialogue pour une Algérie nouvelle et en promettant notamment une révision profonde de la Constitution nationale pour donner naissance à une nouvelle république. Mais les partisans de la contestation ont rejeté en mars cette offre dans des manifestations de protestation quelques heures plus tard. Les contestataires affirment considérer M. Tebboune comme un leader illégitime. Au Soudan, journée de festivité à travers le pays ce jeudi à l'occasion du premier anniversaire du mouvement de contestation ayant mené à la chute du régime de l'ex-président Omar al-Béchir au terme d'un règne autoritaire de 30 ans. À Khartoum, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les différents quartiers de la capitale pour rendre hommage aux martyrs de la révolution en scandant des slogans comme « Nous sommes des révolutionnaires et nous terminerons notre mission ». Le mouvement de contestation avait débuté en décembre 2018 dans la ville ouvrière d'Adbara, à 350 km de Khartoum, avec des rassemblements anti-régime après l'annonce soudaine du triplement du prix du pain. Afrique toujours, le président français Emmanuel Macron passera le vendredi de Noël avec des soldats français déployés à l'étranger. Cette année en Côte d'Ivoire, un pays avec lequel Paris veut resserrer les liens dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État français va partager le dîner de Noël avec un millier de militaires sur la base de Port-Bouet, près de l'aéroport d'Abidjan où il doit atterrir vendredi en fin d'après-midi. Les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, font partie du deuxième contingent le plus important de troupes françaises prépositionnées en Afrique après celui de Djibouti. La visite du président Macron intervient dans un contexte politique tendu en Côte d'Ivoire à 10 mois de la prochaine présidentielle de 2020 et près de 10 ans après la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'opposition politique a annoncé hier qu'elle maintenait son meeting prévu samedi lors de la visite du président Macron, mais dans un lieu différent pour contourner la tentative des autorités ivoiriennes de l'empêcher de se réunir. Les détails avec Ekia Badou.
Maurice Kaku-Gikawe, numéro 2 du PDCI, a annoncé hier que le meeting se tiendra au stade Séni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan. Ce meeting devait se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Pour Port-Boué, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé M. Gikawe. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix lancée par le PDCI et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo, organise cette rencontre aux allures de campagne pour la présidentielle d'octobre 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique au Cameroun, les députés camerounais ont adopté mercredi un projet de loi sur la décentralisation, accordant un statut spécial aux deux régions anglophones du pays où se déroule depuis plus de 2 ans un conflit meurtrier opposant les forces de sécurité à des séparatistes. Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée par le président Paul Biya, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants d'un grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya début octobre pour mettre fin à la crise dans les régions anglophones qui a fait plus de 3000 morts. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Tchad, au moins 14 personnes ont été tuées mardi dans un village de pêcheurs dans l'ouest du pays par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram qui multiplie les attaques meurtrières dans les autres pays riverains du lac Tchad aussi, à savoir Niger, Nigeria et Cameroun. Le village de Kaïga est situé à une 60aine de kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram. La Zambie subit les pires coupures d'électricité de son histoire. Ce sont les effets de la sécheresse qui ralentissent sérieusement l'activité économique et affectent la vie quotidienne des habitants. Le point avec John Lindon.
Dans les quartiers de Lusaka, la capitale, ces délestages peuvent se prolonger jusqu'à 19 heures par jour. Ces coupures d'électricité alimentent la colère de la population. Ces 2 dernières semaines, des manifestants ont caillassé des installations de la compagnie de distribution. Récurrente depuis plusieurs saisons dans toute l'Afrique australe, la sécheresse a fait plonger les réserves d'eau du barrage hydroélectrique des Kariba dans le sud du pays, sa principale source d'énergie. Selon le ministre zambien de l'énergie Mathieu Nkuwa, ces turbines ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité. Il n'y a plus d'électricité dans la région, a-t-il déploré. Il n'y a même plus en Afrique du Sud d'où nous importons, a-t-il ajouté. Eskom, le géant public sud-africain de l'électricité qui fournit au pays 95% de son courant, a été contraint la semaine dernière à des délestages massifs à cause des intempéries.
Et pour terminer, le premier forum mondial sur les réfugiés a fermé ses portes hier à Genève, en Suisse. L'ONU a salué ce qu'elle a appelé un nouveau virage pour l'aide aux réfugiés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
8 milliards de dollars, dont 4,7 milliards par la Banque mondiale, ont été promis. Selon le HCR, le secteur privé a émis des annonces qui doivent permettre de donner accès aux réfugiés à au moins 15 000 emplois. Les gouvernements se sont engagés dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'éducation. Ils disent devoir changer leur législation pour faciliter l'accès à l'école pour les enfants. Le HCR s'est félicité des annonces en matière de réinstallation, un programme consistant à installer dans des pays tiers des personnes déjà déplacées. La Commission européenne a prévu de réinstaller plus de 30 000 réfugiés en 2020. Le HCR estime à 1,44 million le nombre de réfugiés en besoin de réinstallation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à assumer collectivement le poids des 26 millions de réfugiés qui ont quitté leur pays, le plus souvent à cause des guerres et d'autres violences.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, une Chinoise, Jing Lu, 56 ans, a été arrêtée mercredi pour une intrusion dans la propriété du président américain Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, dans le sud-est du pays. Deuxième incident du genre en quelques mois. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.